Bonjour à tous, c'est la bande originale en public, un public de ouf aujourd'hui, je les vois devant moi, ils sont très très énervés. Autour de la table, moins ouf que le public, elle est très fatiguée, elle est presque malade, et elle a quand même tenu à venir, c'est Leïla Kaddour-Boudadi qu'on a
fait. Bonjour tout le monde, salut.
Qu'est-ce
Daniel.
Qu'est-ce qui se passe,
Leïla ? Ça va bien, maintenant que je te vois, tout de suite, tu es ressuscité de l'intérieur.
Tu es son Doliprane.
Eh oui.
Absolument, il manquait ça, être Doliprane. Albert Algoué, bienvenue. Bonjour Albert. Tom Villa également.
Bonjour.
Présent.
Bravo.
Guillermo Guise, très discret autour de la table.
Bonjour.
Richard Larnac, bien sûr.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Et notre invité, monsieur Carl Zéro.
Mais qui êtes-vous, monsieur ?
Eh ben moi, monsieur, je suis Daniel Morin, joker officiel de Nagui quand il est en vacances, joker officiel de Leïla et Tom quand ils sont pas disponibles, joker des vigiles de Radio France quand ils ne veulent pas présenter cette émission. Carl Zéro, bonjour et bienvenue.
Bonjour Daniel, comment vas-tu mon garçon ?
Pour l'instant ça va, merci d'avoir accepté de venir un 7 avril. Pas facile d'accepter un 7 avril.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
C'est un vendredi.
C'est un vendredi et d'habitude vous ne travaillez pas le vendredi.
En fin de semaine.
Je travaille le vendredi, je travaille chaque jour que Dieu fait.
Il n'y a que vous qui travaillez le vendredi, d'accord. Vous venez nous présenter Si j'étais aux
éditions du Rocher. J'ai refusé les RTT, monsieur, il y a belle lurette.
Fini ça les gens qui ne foutent rien, ce pays c'est la chirlie. C'est un recueil de chroniques que vous délivrez tous les matins sur France Info à 7h55. C'est bien ça ?
Ce qui nous permet de nous croiser parfois.
Absolument, et avec grand plaisir, devant une tasse de mocha ou un calva. Pour résumer, on dit tout vite, c'est ce qu'on appelle un livre de feignasse ?
Alors là, attention, attention, attention à ce que tu viens de dire. Et comme toi, j'en ai cassé. Ils ont plus de genoux depuis longtemps. Demande à Albert.
Pourquoi une boîte ?
On m'appelle la teignasse.
Et vous répondez ou pas ?
À quoi ?
À ça.
C'est une question ? C'est une affirmation péremptoire, insupportable, de la part de celui que je considérais comme un ami, jusqu'à il y a quelques secondes.
Jusqu'à il y a quelques secondes. Ouais, on a dévoilé un peu le pitch du livre, mais Père Albert.
Oui.
Merci d'être... Non, Père Albert.
Oui.
Ah, voilà. Je me demande quand même...
Tu fais la bonne voix.
Si, oui, oui. Faites attention à votre voix.
Ah, mais je suis là aussi.
Ah,
il y a beaucoup de monde dans sa tête. Hein. Je me demande si vous avez bien compris pourquoi on avait invité...
Mais écoutez, Daniel, vous me décevez. Quand c'est Nagui qui mène cette bande aussi originale qu'apathique et insupportable, vous n'avez de cesse de le brocarder avec insolence. Mais dès que vous êtes amené à le remplacer, est-ce par mimétisme ou par servilité trop longtemps refoulée, voilà que vous courir aux mêmes pratiques qui consistent à se reposer sur moi ou sur mon ami, que vous avez cité, le maréchal Ganache, hélas indisponible à cause d'une grave fuite urinatoire ce matin, en me demandant, savez-vous pourquoi il va t'aider ?
Je parle comme ça.
Oui, un peu. Tout ça, Daniel, parce que faute de préparation, vous ne savez quasiment rien de l'invité, mais rien de rien. En l'occurrence, aujourd'hui, notre invité est Carl Zéro, dont je tiens à ce qu'il sache ce que vous avez dit de lui, Daniel, juste avant les infos, quand vous avez appris que c'était Carl que vous alliez interviewer. Je vous cite. Putain, Carl Zéro, il paraît qu'autrefois, avant qu'il soit piqué tous ses concepts d'émission, il était désopilant. Mais l'humour, c'est comme les cheveux. Et lui comme moi, on en sait quelque chose. La drôlerie, quand on commence à la perdre, ça ne repousse pas. Finalement, le seul souvenir, avez-vous ajouté, Daniel, le seul souvenir que laissera Carl Zéro, c'est un gâteau qui porte son nom dans la vitrine de la pâtisserie Gibourdel à Trouville. Un truc à base de caramel, de noix, de café, c'est le gâteau Carl Zéro. Hein. À base de caramel, de noix, de pâte d'amande, de biscuits, de chocolat, qui a d'ailleurs valu au pâtissier plusieurs plaintes pour incitation à la constipation aggravée. Voilà, Carl, voilà ce que Daniel Morin disait de toi, parce que c'était toi, on se connaît depuis longtemps. Quant à moi, j'ai vu tes documents dans la peau d'un. J'ai écouté tes chroniques sur France Info, quand c'était à l'instant. J'ai lu le recueil qui les rassemble de feignasses, si j'étais. Et que tu entres dans la peau de Poutine ou de Castro, que tu te prennes pour Fillon, Mélenchon ou Émile Louis, soit cela demande chez toi un penchant schizophrénique qui relève de soins psychiatriques qui ne sont pas de mon ressort. En revanche, que tu veuilles incarner le diable, page 308, c'est ta dernière chronique. Là, je dis stop in the name of God, car il est écrit que celui qui habite Satan, Satan l'habite. Mais si, bien sûr, je ne pourrais pas la louper ça. Carl, tu es possédé par le démon. Je n'ai donc pas le choix. Je vais devoir t'exorciser.
Oh oui.
Mais n'aie pas peur, c'est un acte d'amour. Terrogamus immundus Belzébuth spiritus. Je te conjure, esprit immonde de Belzébuth. Va des rétro, prince divis. Quitte ce corps comme le peuple Rosebif a quitté l'Europe. Oui, retire-toi de cette créature créée par Dieu. Retire-toi et réponds-moi.
ta mère suce des bites en enfer.
Oh, ça ne marche pas, Daniel. Le diable m'énorgue. Je vais être obligé de me sacrifier. Démon, quitte la chair de Carl Zero et prends possession de mon corps impur. Oui, prends-moi, vas-y. Oui, oui. Non, non. Oui, oui, oui. Entre moi. Take me. Come into me. Vas-y, diable d'un. Sauve-moi. Ravage-moi. Venge-toi.
Oh, mon Dieu.
Il y a une chorégraphie. Voilà, ça marche, Daniel, ça marche. Je me suis sacrifié, Carl est délivré. Vous pouvez commencer l'émission.
Très chrétien, ça.
Merci, Père Albert.
France Inter. La bande originale.
Leïla était choquée par deux fois, j'ai cru qu'elle allait tomber de son siège, elle est satin, l'a dite.
Je la connaissais pas.
Et ta maman est très occupée en enfer. Voilà, c'est ce qu'on dira. Si j'étais Carl Zero qui reprend ses chroniques de 7h55 sur France Info, il y a eu beaucoup de travail de réécriture ou pas?
Ah non, il faut pas.
Non.
Il faut pas parce que sinon tu trahirais. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que tu écris au jour le jour et donc tu racontes l'actualité du jour. Or, chaque jour, il y a une nouvelle actu, ce qui fait qu'il y a des trucs que tu as complètement oubliés. Par exemple, prends l'admirable Robert Rochefort, dont on avait appris qu'il était le numéro 2 du Modem. Mmh. Tout le monde l'a déjà oublié, et pourtant, il avait été surpris en pleine masturbation au Castorama. Un épisode dont Albert se souvient, puisqu'il était probablement présent ce jour-là.
Il était déguisé en chef de rayon.
Mais il n'y a pas des passages la relecture où vous dites, tiens, il y a peut-être moyen de réarranger un peu, parce que ma chronique était bonne, mais elle pourrait peut-être être meilleure.
Non.
Et auquel cas, non.
Non, si tu fais ça, tu triches. Parce que, évidemment.
Tu travailles.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Tu te dis.
Méchant, c'est désagréable.
Elle est méchante.
Continue, Carl.
Pardon, Carl.
Je pense qu'un départ est possible. Une levée drapée dans ma dignité, un départ. Une porte qui se claque. Une émission qui s'effondre.
Il sortit nu, drapé dans sa seule dignité. 4-0.
Et dans la moquette.
L'histoire, dit-on, est toujours celle des vainqueurs. Or, le temps est le vainqueur. Vous me suivez? Non,
ouais,
je ne pense pas.
Je
pense que si tu réécris après coup un truc écrit il y a 4 mois, eh ben, tu le vois différemment d'il y a 4 mois. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on en parlait. Prenons l'exemple de Trump. Personne ne pensait, autour de cette table, je pense, qu'il serait élu.
Non, donc, même si on espérait, on pensait que ça n'arriverait pas.
Bien entendu, ça secrètement.
Ça va de soi.
Mais oui, nous piquions des statuettes d'Hillary, d'épingles, bien sûr. Non, mais je crois que ça serait tricher pour répondre à mademoiselle qui n'écoute plus. Avec son bonnet, elle s'est endormie.
Et elle est malade.
C'est un peu facile, mademoiselle. Des attaques et ensuite vous dormez.
Je vous laisse faire après.
Carl, le passage de l'oral à l'écrit a été... Là, par contre, vous réarrangez des petites choses ou non? Pareil, c'est vraiment un copier-coller de...
Ah ben, c'est exactement ce que j'ai annoncé le matin, parce que pour vous dire la réalité, et Albert en sera témoin, car il me connaît depuis une centaine d'années, je ne suis pas du tout du matin. C'est-à-dire, j'ai commencé à me réveiller cette année, le 29 août. Auparavant, je mettais un point d'honneur à me lever vers 11h du matin. Et donc là, j'étais obligé de me lever à 6, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je n'ai pas de voix. Je n'ai pas de voix parce que j'ai trop fumé, trop bu, trop fait le con. Et le résultat, c'est que le matin, j'annonce. Alors en fait, je trouve que par écrit, c'est infiniment mieux. Et c'est un argument de vente pour acheter ce livre.
Mais c'est aussi un exercice d'empathie, si j'étais. Ça pourrait être, Carl Zero, le satiriste, le moqueur, mais il y a de l'empathie, oui. Même pour des gens dont on pourrait croire que vous ne les aimez pas.
Et ça vient en fait du vrai journal sur Canal+, quand j'interviewais les gens, les tutoyants. Je me suis rendu compte assez rapidement que...
Puisque ça vous a été reproché, ça, de dire que c'était de la démagogie.
Oui, ça a marché.
Oui,
c'est
pas de la démagogie, en fait, c'est de l'empathie et c'est une... Bon, il faut reconnaître que c'est spectaculaire, évidemment, mais je pense que toute info est par elle-même spectaculaire, même la manière dont elle dans les ordonnances, il y a un spectacle. Et donc, je souhaitais que l'interviewé soit le meilleur possible. Je ne souhaitais pas qu'il soit ravagé. Certains animateurs ou intervieweurs faisaient ça. Je me souviens de Fogiel qui était comme un roquet qui voulait écraser le mec, le tuer, le lapider, le lacérer.
Et les gens y allaient en tremblant.
Bien sûr.
C'est génial.
Je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut être gentil et essayer de faire en sorte que la personne soit au mieux possible. Et quand tu te mets comme ça à la place de l'autre qui est en face de toi, tu finis par non seulement inventer les questions, mais aussi éventuellement avoir des idées de réponses pour lui.
En disant, ça rend schizo complètement.
Il n'est quand même pas très très bon. Il aurait pu dire ça à ce moment-là. Il aurait pu dire ça.
Oui, ça rend schizo. Là.
Ça rend un peu schizo, mais en sortant de ça, j'ai fait Dans la peau de Jacques Chirac, qui était le premier opus de l'idée de se mettre dans la peau de quelqu'un, parce que j'avais constaté que Chirac n'était jamais aussi naturel que quand il n'y avait pas de caméra, et que là, il était drôle, et que donc il fallait montrer ce qu'il pouvait être dans la vie réelle. Et par la suite, bah, j'ai continué avec d'autres films dans cette série-là pour Arte. Et tout naturellement, quand France Info m'a dit « Mais pourquoi tu viens pas nous parler un peu de politique pour cette année qui va être quand même cruciale ?» J'ai dit « Je vais faire si j'étais. Je vais prendre des personnages de l'actu et raconter ce que j'imagine qu'ils pensent au moment où l'actu se passe. »
Mais alors, il y en a qui étaient...
Donc Albert a raison de souligner l'empathie. Y en a qui... mets réellement, pas pour les détruire uniquement.
Il y en a qui étaient, j'allais dire, morts-vivants. Castro, Bouteflika...
Oui,
ça se passe comment, se mettre dans la peau
courrier, les amis.
Ça se passe comment de se mettre dans la peau de personnages, disons, sur leur tard ou sur leur fin.
Eh bien, d'abord, je t'ai très bien connu, Albert, et tu as toujours été un peu sur sa fin. Même à 30 ans, il était sur sa fin. Il est resté sur sa fin. Il est toujours là. Non, mais il vivra jusqu'à 120 ans parce qu'il avait déjà 80 à 20.
C'est sa force.
Et d'autre part, quand tu te lèves extrêmement tôt,
je suis raccord maintenant.
Oui, tu as enfin le physique de ton personnage, ça c'est merveilleux. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu te lèves à 6h du matin, tu es toi-même semi-mort. Donc tu peux très très bien imaginer ce que ressent Bouteflika même à 14h. Ou Castro mort. Tu es proche de la mort.
Et c'était une volonté de ne pas faire que des politiques justement cette année présidentielle pour pas être étiqueté humoriste politique.
Il y a Jean-Marc Morandini, il y a Brad Pitt.
C'est l'actu. Mm-hmm. Kardashian, etc. C'est des trucs, un jour on se met à parler énormément de Kim, on lui a volé ses bijoux et tout. Bon, bah, du coup, je me dis, ça me change les idées. Et puis, il faut dire qu'une fois que tu as fait 64 fois Trump et 17 fois François Fillon, le Nosferatu de la Sarthe, t'en peux plus. Et donc, tu cherches à... C'est super difficile tous les jours. Là je te l'ai dit, Daniel. Mmh. Il le fait depuis des années, des années.
J'admire. Oui, mais lui, il est bon.
Et vous avez déjà eu des retours.
Debout. Et vous êtes à partir.
Et vous avez déjà eu des retours des personnes dont vous parlez.
J'ai eu un retour de Michel Polnareff qui était...
Encore entre la vie et la mort, hein, c'est toujours...
Non, c'était justement à propos
encore
ça.
Encore les gens malades.
Parce que j'avais écrit, mais c'était vraiment une vanne sympa, c'est de dire qu'effectivement, il avait eu une embolie pulmonaire, puisque au scanner, on voyait des taches, mais qu'il avait fait le scanner avec son pull où il y avait des taches de vomi et de vin, et ça n'a pas du tout amusé, voilà. Exemple de truc. Sinon, se trouve qu'à France Info, après mon passage brillant, Jean-Michel Apatride reçoit différents animateurs, animateurs.
Arrêtez de me brocarder.
Invités politiques.
Des invités politiques. Et on peut pas dire que les poignées de main soient extrêmement franches et sympathiques quand ils me voient. Mais bon, c'est la vie. Hein.
Et dans la peau de qui vous êtes senti le plus à l'aise et le moins à l'aise?
Le moins à l'aise, c'est dans la mienne. Et le plus à l'aise, c'est...
Mais c'est le premier texte pour s'en débarrasser.
Oui, tu as raison. Mm-hmm. Tu vois, mais que j'ai fait spécialement
et
pour...
Et le dernier, c'est le diable. C'est quand même étrange.
Ah oui, c'est vrai que psychanalytiquement, c'est un peu inquiétant.
La boucle est bouclée, quoi.
Vous pouvez mourir, Carl.
Alors, celui où je me sens le mieux, j'aime bien. En fait, plus c'est un affreux, plus c'est rigolo. C'est-à-dire, prenons un exemple, très récemment, je faisais Poutine qui a rencontré Marine Le Pen, et me mettre dans la peau de Poutine, c'est un truc que j'adore.
Et est-ce que ce livre, Carl, c'est aussi un moyen de garder un petit souvenir de toutes ces chroniques qui restent finalement éphémères, comme ce qu'on fait un petit peu tous les jours?
Oui, tout à fait, bien sûr, c'est pour ma retraite qui est proche. Je pourrais relire tes passages à haute voix devant mes petits-enfants.
Non,
si, bien sûr.
Non, mais il y a forcément une déception quand on écrit une chronique. Bah, deux jours après, on l'a oublié.
Non, c'est-à-dire ça. En fait, ce qui m'amuse là, c'est que ça raconte vraiment l'année électorale. Donc, alors, certes, il y a Kim Kardashian et puis Michel Polnareff, mais au-delà de ça, ça raconte exactement ce qui s'est passé au jour le jour. Bon, évidemment, vu par mon cerveau pervers, mais malgré tout, ça raconte tout ce qui s'est passé. Comment de Sarko vainqueur, au début, il est vainqueur, au début du livre. Personne ne pense qu'il va quand même échouer à la primaire de la droite. C'est impossible. On pense qu'il arrive à être élu. Enfin, tout change sous nos yeux et en même temps, tout est en train de se défaire. Et on comprend tous que quelque chose sous nos yeux, le monde est en train de changer. Et alors, c'est la version, on va dire, drôlatique des choses. Mais pas que. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a un truc qui nous échappe complètement. Voilà à quoi ça sert ce bouquin-là.
Et des fois, en commentant, on anticipe un peu l'avenir. Des fois, vous avez eu parfois raison sur certains points.
J'ai toujours raison.
Mais justement, arriver à se mettre dans la peau de tant de personnages différents, c'est parce que les personnages sont hyper prévisibles ou c'est parce que vous êtes supérieurement intelligent?
Non, je suis intuitif de nature et après drôle certains jours et sérieux d'autres fois. Et voilà, je me trouve bien dans ce truc-là parce que je cherche pas forcément à faire des vannes. Parfois, c'est vraiment... c'est carrément sinistre, mais en même temps, ça raconte quelque chose. Et cette possibilité-là, qui m'est offerte par France Info, elle est assez rare, en fait. Faut bien voir que...
Totale liberté?
Ah ouais, ouais, ouais. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un conseil, jamais une demande, jamais une censure, rien du tout. Étonnant, formidable.
Intuitif, brillant, intelligent, drôle, c'est Carl Zéro, mais c'est aussi des qualités, des qualités qui vont très très bien à Leïla Kaddour Boudadi. Leïla, vos oreilles ont sifflé, paraît-il, quand vous avez su qu'on recevait Carl Zéro.
Absolument, et quand je pense à vous, Carl Zéro, je pense au réalisateur de cinéma, à un film en particulier, Le Tronc, et à un immense acteur.
Tu me fais monter comme une omelette norvégienne, tu m'ériges comme l'obélisque. Après quoi ? Mademoiselle Fessa Mijaurée refuse le Turquie Chapico, bousille le travail comme une intérimaire. Ah non, dehors, ingrate, égocentrique, comédienne.
Et c'est pour vous, monsieur Maurice, je vous l'échange contre 5 grammes, c'est honnête.
Farceur, va te faire reluire par un Africain avec ton infâme parda tchécoslovaque.
Le Tronc, un film français que vous avez co-réalisé avec Bernard Farou, qui est sorti en 93. Et là, on vient d'entendre la voix d'Albert Algout. Eh oui, mon Albert, moi j'ai découvert des choses. Ouais.
Énorme rôle.
C'est tiré d'un fait divers qui a vraiment eu lieu, qui était appelé l'affaire Weber, qui raconte l'histoire de Simone Weber, accusée d'avoir assassiné son mari, Oscar Foulard.
Attention que c'est des blagues.
Mais vraiment, quand tu vois le pitch, et de l'avoir découpé à la meuleuse à béton pour mettre son tronc dans une valise.
Voilà.
Et donc, le film, c'est Les Mésaventures du Tronc.
Le tronc est toujours vivant dans sa valise, ce n'est plus qu'un tronc, il entr'ouvre sa valise. Ce qui fait qu'on voit non plus, c'est plus du cinéma.
C'est de la caméra subjective.
Mais c'est immensément moderne.
C'est du Tarantino.
Incompris à sa sortie, mais grand film. Et en tout cas, culte, ça, il n'y a aucun doute. Et Albert, dedans...
Les chômeurs.
Voilà, les chômeurs.
C'était une des répliques. Et les Village People arrivaient dans ma boutique de farce et attrape.
Et chantaient ANPE au lieu de YMCA. C'était grandiose. Un film grandiose qui a eu un succès, je dirais, de chapelle.
Musique d'Alexandre Desplat, qui a eu les Golden Globes.
Pour
musique
ça
de film et de l'Oscar du cinéma. Non, mais on a un grand
bien entouré
de musique.
Avec en voix off Jean-Luc Reichmann.
Oui, qui incarne le tronc, qui pense toujours
à revenir à la télé.
À forniquer.
Et à forniquer.
Voilà, malgré son statut de tronc.
Oui, mais c'est d'ailleurs ce qui est réellement dans la vie Jean-Luc Reichmann. Hein, qu'est-ce que je dis ? C'est une sorte de tronc qui pense qu'à niquer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. On ne faisait que révéler la réalité de chacun. Albert y était enfin ce qu'il aurait toujours dû être. Non, Albert, je te sens un peu gêné. Tu peux en parler avec tes mots à toi.
C'est tellement ancien.
Est-ce qu'on peut diriger quelqu'un comme Albert Algout quand on travaille tous les jours pratiquement avec lui?
Ouais, il suffit de lui donner un litre de vin blanc, un camembert et un petit mouchoir.
Et c'est ton moteur, ça, le camembert et le litre de vin.
Tu te souviens? On va vous raconter un souvenir commun.
Aïe, oui, mais je vous en prie.
Non, non, c'était très, très drôle. On était sur une station concurrente en 1991, donc ça date pas d'hier. Et on allait, c'était RFM, on faisait une émission avec l'abominable Decaune. On écrivait tout. L'autre, il dormait, il arrivait tel la star et tout. Nous, on avait écrit noirci des centaines de pages de gags et tout.
C'est vrai, en plus.
Et ensuite, épuisé, on était épuisé. On arrivait à 8h du matin, il arrivait à 11h, il restait un quart d'heure, il se faisait maquiller même pour la radio, enfin tu vois le mec.
Bah, c'est l'esprit canal, hein, je veux pas...
C'était la grande famille.
Ouais, la grande famille. Et là, qu'est-ce qui se passait? On sortait de là épuisé, on allait au resto et on mangeait, je jure que c'est vrai, un camembert entier chacun, après avoir mangé évidemment plat, entrée, dessert, un camembert, et après, on avait bu chacun un litre de vin, un litre de vin.
Et on faisait la course sur le périph.
Course sur le périph en bagnole, et Albert faisait semblant, tout en conduisant de ce masturbé en reniflant son sperme dans un petit chiffon qu'il avait. Je vous jure que c'est vrai.
Oh ben on
et
a
ça
pas
a
de
duré
doute, hein.
un an. Et du coup, on était à 190 sur le périph et il faisait semblant de se branler. T'imagines?
J'ai du mal.
Voilà le mec avec qui vous travaillez tous les jours.
Mais là, j'en profite pour passer un petit appel à la jeunesse qui nous écoute et qui sont un peu désolés, qui ne sait plus comment s'amuser. Voilà un bon moyen de s'amuser. Voilà
un
moyen de s'amuser.
Un mouchoir, une voiture, un périph. Et
tranquille. Un compteur bloqué, on s'amuse.
Et tout d'un coup, le sujet du film me semble pas totalement dingue, en fait, après cette anecdote.
Très édulcorant.
Oui, finalement, c'est assez léger, le film,
c'est
Le Tronc.
C'est rien par rapport à la vie qu'on avait,
Ok. Mais quand je pense à vous, Carl Zéro, je pense aux comédiens, et notamment dans un film que certains qualifient de culte.
Les Aztèques pouvaient prévoir les éclipses, les tremblements de terre, les chagrins d'amour. C'est pas leur métier. Je bois aux Aztèques.
Vous avez raison. D'autant que ce n'étaient pas des savants, c'était des poètes.
Je bois à la poésie.
On est en 97, c'est Le jour et la nuit, le premier film de Bernard-Henri Lévy.
Ma vie est jalonnée de films cultes.
Un film qui a été violemment hué au Festival de Berlin.
Non, ça c'est très exagéré. Quelques mauvais coucheurs, peut-être deux ou trois, appointés par des films concurrents.
Et on a gardé que leur réaction, c'est un scandale.
Évidemment, vous savez comment sont les médias.
Et comment on se retrouve dans un film de BHL?
Bon, c'est simple, il vous appelle, sauf que moi, il m'a appelé à 1h30 du matin. Oui, bonjour, je suis Bernard-Henri Lévy. Et je lui dis, mais il est 1h30 du matin, monsieur. Il me dit, je suis au Mexique. Je dis, ok.
Là,
qu'est-ce que tu veux répondre? J'ai pensé à vous pour le rôle de Philippi. Je lui dis, mais qui c'est que c'est connu? Écoutez, rappelez-moi demain. Vous voyez bien que je me repose, monsieur. Le lendemain, il me rappelle. Il était toujours 1h30 du matin. Je sais pas, il passait ses appels. Il me dit, je vous attends à l'hôtel Montalembert dans 15 jours. J'y vais. Je me disais, c'est la caméra cachée. Marcel Béliveau va surgir. Il va se passer un truc. Pas du tout, il m'explique son film, je lui dis formidable, il me dit « Je vous rappellerai pour vous signifier le jour du départ. » Plus aucune nouvelle pendant 4 mois. Et puis une nuit, 1h30 du matin, téléphone sonne, BHL, qui m'a dit « Vous partez samedi !» Je pars le samedi, distribution dans l'avion des scénars. On lit le scénar, on boit, Xavier Beauvois, il boit tellement qu'il agresse le pilote de l'avion. Et un moustachu robuste, il lui met une claque. Un pilote mexicain, t'imagines? C'est, ça peut presque être la guerre mondiale. Du coup, ils nous débarquent à Cancun, ils atterrissent, ils disent « Bon, les Français, là, dehors. L'équipe du film de BHL dehors. » Donc, nous voilà perdus à Cancun, tu vois. Alors, moi, je faisais un peu géo. Non. Bah, il y a pire. Tu as la police mexicaine. Qui a giflé le pilote? C'est Beauvois, c'est un con. Il est bourré et tout. On se retrouve dans la merde. Bon, l'équipe de prod ne nous retrouve pas. Je fais géo. Je ramène tout le monde au bercail. BHM me dit, mon cher Karl, merci, vous nous avez sauvés. Le film peut commencer. Et voilà. Et après, on se retrouve avec Alain Delon et Lorraine Bacall pendant 2 mois et demi au soleil. C'était génial.
Et le film, vous en pensez quoi, a posteriori?
Écoutez, un excellent film, vous n'allez pas me faire dire du mal.
Non.
Bon, écoutez, c'est un film.
Non, je vous rappelle à votre honnêteté légendaire.
Écoutez, c'est un film qui, personnellement, m'émeut quand je le revois. J'y vois des souvenirs.
Vous pleurez de tristesse ou de...
Des gifles et des moustaches.
Non, je revois tous ces beaux souvenirs qui, malheureusement, ne sont pas à l'écran. Parce que j'aurais voulu... Non, je voulais filmer, je vous jure.
Attention, vous êtes en train de dire que tout ce qui est bon n'est pas à l'écran.
Je crois que tout le monde s'en est rendu compte. Mais ça, il y a prescription. Non, c'est-à-dire que j'avais un caméscope et je faisais un making-of. Et BHL, ce fourbe, se rendant compte que je faisais en loose day un making-of, a volé une petite pièce de mon caméscope et je n'ai plus pu filmer. Et il ne me l'a avoué que des mois après. Il n'a pas rendu la pièce.
Et pourquoi ?
Donc, ce petit caméscope est en vente aujourd'hui, sur le bon coin. Il est énorme comme ceux qu'il y avait à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas qu'il y ait l'image de lui avec Alain Delon, parce qu'il n'y avait que des trucs hyper marrants en fait qui se passaient en off. Voilà.
Et il est marrant BHL en off?
Beaucoup plus qu'en in.
Oui.
Il y a un silence là.
Et vous qui avez fréquenté comme comédien Albert Algo et Alain Delon, est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Le même genre d'homme.
C'est le même genre.
Le camembert, un litre de vin et le périph'.
Non, mais la voix qu'on entendait faire à Albert tout à l'heure est un peu dans la vie civile, la voix d'Alain Delon.
Il y a la tessiture.
En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que dans les transports, que ce soit les voitures ou les avions, c'est très dangereux d'avoir Karl Zéro à bord.
Et un camembert.
À part Kim Kardashian et Booba, vous ne faites pas beaucoup les humoristes, Karl, pourquoi?
Imiter des humoristes?
Ouais, vous mettre dans la peau d'un humoriste.
Oh bah c'est impossible ça, je vais pas faire Laurent Gérard ou Canteloup, tu vois, qu'est-ce que je
dirais? Je ne sais pas, je vous demande.
Non, parce que ce sont des gens qui vivent au travers des autres, donc qu'est-ce que tu veux faire? Si j'étais, alors ici...
Une chronique par exemple de Canteloup qui avait fait...
Non mais des humoristes pur porc.
Non mais même... Mais
genre si j'étais Guy Bedos...
Ou si vous étiez Canteloup, par exemple, quand Canteloup a fait un peu
quand
la une des
la
journaux,
divers,
voilà, ouais. Et qu'il a été interpellé pour une de ses imitations chroniques où il parlait du jeune Théo, ça, par exemple, ça aurait pu donner lieu à un CGT.
À le bâcher sévèrement. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais ça me semblait moins extraordinaire que l'affaire Morandini, c'est-à-dire là, c'était juste, bon, j'imagine, il doit avoir une pléiade d'auteurs, et il y en avait un qui avait déconné, lui était mal réveillé, il a lu le truc, il a regretté après, il n'y avait pas de quoi en faire non plus tout un plat. C'était moins extraordinaire que les castings de Jean-Marc.
Les bons castings de Jean-Marc Morandini. Justement, un ancien des castings de Jean-Marc Morandini, c'est l'humeur de Tom Villa.
Ah là là, aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 avril 2017 et il y a deux journées mondiales. Alors je vous cache pas que je vais pas faire ma chronique sur la première, qui est la journée internationale de la réflexion sur le génocide au Rwanda.
Ah bah si, dommage.
Est-ce qu'on a besoin de débattre 3 heures pour savoir que c'était pas bien? Je ne pense pas. Non, le 7 avril c'est aussi la journée mondiale de la santé. Et oui, parce que la santé, c'est comme la femme, la francophonie ou le jazz, elle a sa journée, la santé. Hein. Aujourd'hui c'est comme le 31 décembre, on peut se souhaiter à tous une bonne santé. Voilà, donc bonne santé à toute l'équipe de la bande originale.
Merci.
Bonne santé, Karl. Bonne
Merci.
Santé.
Bonne
au
santé
public
à toi.
Bonne santé. 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 Oui. Pourquoi santé. Cette date? Parce que c'est la date anniversaire de l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui a été fondée le 7 avril 1948. Donc ça fait 70 ans. Et force est de constater que l'OMS, bah, elle a bien bossé. Voilà. Selon sa constitution, l'OMS a pour objectif d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible. Donc voilà, c'est un pari réussi, du moins pour ceux qui y bossent, puisque le siège est en Suisse. Ah bah eux, ils sont en bonne santé là-bas, hein. Non, parce que chaque année, pour la journée mondiale de la santé, il faut le savoir, il y a une thématique. Par exemple, en 2014, c'était les maladies à transmission vectorielle. Je me suis dit, putain, une maladie avec des compas et des règles, qu'est-ce que ça me fout cette affaire là? Ah non, déjà en maths, je faisais un AVC, alors là je me suis dit, oh putain, ça pue la merde cette affaire. Et en fait non, les maladies vectorielles, c'est par exemple la rage, le paludisme ou la peste. Voilà, donc des maladies du Moyen-Âge qu'on a refilées aux pays du tiers-monde. 2015, c'était l'année de la sécurité sanitaire des aliments. Alors évidemment, pour qu'il y ait une sécurité sanitaire des aliments, il faut qu'il y ait des aliments, hein, sinon voilà, ça ne compte oui. pas. Ah, exemple évident, mais quand même, c'est important de le préciser, quand on congèle et qu'on décongèle un aliment, il ne faut pas le recongeler à volonté, on n'est pas chez les Courgeot. 2016, le slogan c'était « Soyez plus fort que le diabète ». Très bon slogan, qui a dû plaire à tous les diabétiques, hein, comme mon cousin qui est insulino-dépendant. Comment Benoît, t'es en train de faire un malaise? Il faut que tu sois plus fort que le diabète. C'est l'OMS qui le dit, hein. Non, je te donnerai pas de sucre, c'est trop facile, démerde-toi. Et cette année, 2017, des fois, le hasard des thématiques fait bien les choses, puisque le slogan, c'est « Dépression, parlons-en ». Alors, oui, mais parlons-en entre nous, parce que la dépression, c'est une maladie de pays de riches. C'est-à-dire que quand de base t'as rien et que ta vie consiste à échapper à la guerre, à pas savoir où vivre, voire à pas savoir si tu vas vivre, tu fais rarement une dépression. Ta vie est une dépression, hein. Donc voilà, sans trop avancer, je crois que l'Afrique c'est pas le continent où on consomme le plus de Xanax, hein. Déjà que pour trouver un pansement propre ça devient une galère, mais voilà, les mecs ont plus besoin d'une trithérapie qu'un colloque sur le burn-out. Donc voilà, c'est la journée mondiale de la santé, merci l'OMS. Et d'ailleurs je fais une petite proposition en pleine campagne présidentielle, je pense qu'on pourrait faire peut-être une fusion entre la journée mondiale de la santé sur la dépression et le Parti des Républicains. Parce qu'ils ont déjà leur mascotte, elle a des gros sourcils, des cernes. Alors voilà, je pense que ça peut être très
bon
intéressant. Et petit indice, c'est comme la WWF, ça serait un panda, sauf que lui, on a envie qu'il reste en vie. Bonne journée et bonne santé à tous.
Merci Tom.
La bande originale sur France Inter.
La bande originale avec comme invité Karl Zéro, si j'étais aux éditions du Rocher. Toutes ses meilleures chroniques, évidemment, elles sont toutes bonnes d'ailleurs, de 7h55 sur France Info.
Merci Karl, Daniel.
Je vous en prie, on va évoquer avec vous quelques dates de votre vie. De votre vie qui a retenu notre attention. On commence par 1981, année où vous écoutiez.
J'ai roulé dans tes doigts.
J'adore.
Ça vous laisse s'envoler là?
Je ne connaissais pas.
Naufrage en hiver.
Tube.
Cadeau.
C'est en quelle année?
81.
80. Ah ouais. Tube intemporel, tube magnifique.
Ça n'a pas vieilli.
Qui chante?
Un groupe qui s'appelait Mikado, constitué d'un couple. Je crois que c'est un one-hit group, comme on peut dire, mais oui, ça rappelle vraiment ces années-là, c'est kitsch, et en même temps, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vous-même des jeunes autour de vous, Daniel certainement.
Si, j'ai beaucoup de jeunes qui m'accompagnent.
Eh bien, ils adorent ce son années 80, ce qui, moi, me fascine, parce que vu des années 80, les années 80, je n'ai pas trouvé que c'était fascinant, mais en fait, maintenant, je me rends compte que ça l'était.
Mais ça l'est, et en 81, vous rentrez à Actuel en 80. Et vous dites que vous êtes rentré grâce à votre lettre de motivation.
Oui, c'est vrai. C'est
vous
vrai.
Écrivez à la fin de votre lettre que vous aviez envoyée, veuillez agréer mes sentiments les plus...
Disco.
Mais voilà.
Ça a plu à biseau alors.
J'étais tout de suite dans l'époque. Il s'est dit, c'est un tel foutage de gueule qu'il faut rencontrer ce mec.
Justement, en parlant d'époque, vous disiez, Actuel a parfaitement pigé l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, c'était vraiment l'air du temps. Il n'y a pas tellement d'équivalent aujourd'hui. C'était un mensuel, hein, donc, et basé un peu au départ sur l'idée de gonzo journalisme. Donc, je vais voir, je raconte, même si j'ai échoué, je raconte mon échec. J'ai pris beaucoup de drogue, et tout ça fait quand même un. Et ça raconte l'époque dans le sens où tout ce qui allait faire le monde, je dirais des années 90, 2000 et même encore maintenant, était en gestation. Et tout est sorti au travers de ce truc, de ce magazine. Alors, je parle pour ma chapelle. Bon, de actuel, il y avait Radio Nova. Radio Nova, c'est devenu Canal+. Toute une génération est née là-dedans. Mais au-delà de ça, dans ces années 80, on croisait des tas de gens qui n'étaient pas connus et qui aujourd'hui sont tous devenus des monuments humains. Donc, tu pouvais te retrouver avec, je sais pas quoi, Lirita Mitsuko, mais qui n'était pas connue dans un truc. Ensuite, tu étais avec Charlie Couture, qui n'était pas connue. Ensuite, avec Bachung, qui n'était pas considéré comme un dieu.
Enfin, Jamel
Jamel n'était même pas né, lui. Il cirait des chaussures à trappe encore.
Ah, c'est quand même Bizot qui l'a fait venir. Nous,
c'est Bizot après, ouais, bien sûr. Après, ouais. Non, mais il y avait, c'est l'époque où Bizot avait fait venir Jean-Yves Lafesse, par exemple, ou Berry Wiseman, et ainsi de suite. Il y avait une espèce de génération naturelle dans ce. C'était un foutoir total actuel, mais ça fonctionnait. Et le journal se vendait très bien.
Il y avait ceux qui n'étaient pas encore connus, il y avait ceux qui étaient déjà connus, comme Serge Gainsbourg, et vous dites qu'il vous a fallu pour dérocher son interview, plutôt ses interviews, 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qu'il a pu vous dire qu'il n'avait pas dit ailleurs?
Ah bah tout, il s'était mis à table et c'était très étonnant parce que il disait que finalement ce qu'il avait préféré dans la vie c'était le service militaire. C'est très inattendu de la part de Gainsbourg. Il se lâchait comme rarement. C'est pas pour la dérocher en fait, c'est pour il a fallu l'interviewer pendant 3 jours et 3 nuits. Et donc le ramener le soir à la maison, le border pour qu'il ressorte pas, il était bourré, pas faire de bêtises, etc. Non mais c'était très 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 formateur,
très rock and roll.
Mais c'est une autre époque, c'est sympa comme tout.
Et vous dites justement, vous arrivez à Actuel où justement le journalisme gonzo, vous pouvez partir à droite, à gauche, où vous voulez, presque dans les quatre coins du monde.
Ouais.
Et là on vous demande où est-ce que tu veux aller.
Et je dis en Espagne.
Voilà, en Espagne. Vraiment. Alors que le monde lui est ouvert.
C'est petit bras. Hein.
Très petit bras. Mais non, c'était le sujet, c'était tu pars à la recherche du flamenco rock. Ah. C'est une idée de génie, sauf qu'il n'existait pas.
Ça, c'était. Ah, il a existé après.
Après.
Loli Manuel, par exemple.
Oui, mais rock. Après. Là, je te parle 80, il n'y a pas trace. Mais dans la tête de Bizot, qui dit.
C'était un visionnaire.
Explosion de la Movida, il se dit, ben, il va y avoir forcément un moment. Ouais, t'as compris, une fusion flamenco rock.
Oui, mais il a eu raison parce que ça s'est produit après.
Ouais, mais sauf que si tu veux, quand tu devais faire le papier, ben finalement t'es allé glander dans des boîtes interlopes à Madrid et à Barcelone, et tu revenais en écrivant un papier. Le flamenco rock, je sens qu'il va exister, mais il n'existe pas. Mais c'était très drôle quand même.
En 1996, Carl, vous écoutiez.
I love you.
Quelle voix.
For merci. Sentimental reasons.
Merci.
C'est vous qui chantez, Carl.
Oui, c'est moi qui chante, sauf que c'est encore avec Alexandre Desplat, d'ailleurs. Et j'ai écouté ça en 96, alors que l'album est sorti en 2000. Donc j'avais la préscience de ce qui allait se passer. C'est-à-dire, en fait, j'écoutais beaucoup de cha-cha, de musique napolitaine aussi. Et je me disais, c'est dommage, plus personne ne le fait. Et c'est pour ça que 4 ans plus tard, on a fait cet album avec Alex. Voilà.
Et 96, ça correspond à votre entrée au vrai journal. Alors, sketch truqué, vraie interview. Super succès hebdomadaire. Pourquoi est-ce que vous avez, on a parlé tout à l'heure, cherché à imposer le tutoiement?
Parce que j'avais remarqué, on avait fait longuement auparavant, avec Albert d'ailleurs, nulle part ailleurs, et quand ce malheureux Gildas recevait... T'as vu, il suffit que je dise ce malheureux Gildas,
il est mort de rire. Je trouve que l'adjectif lui va bien.
Jubilation d'Albert.
Des dossiers quand même, je sens sur Canal, là, ouais, tous les deux là.
Ah, bah, tu peux pas savoir, on peut tenir 17 heures là, si tu nous lâches. Bon, alors donc le Gildas en question, il recevait des politiques, et il les tutoyait hors antenne, et dès qu'il y avait le rouge qui était mis, il les... Vous voyez, lamentablement.
Comme beaucoup, un peu partout.
Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Je me dis, il faut faire le contraire. Puisque je vous vois dans la vie, il faut que je les tutoie à l'antenne. Puis voilà, c'est aussi con que ça.
Et ça a très bien marché. Alors, le vrai journal plaisait beaucoup au directeur des programmes, Alain Degreff.
Ah oui.
Oui, il était fan.
Le patron.
Beaucoup moins.
Pierre Lescure détestait.
Il détestait. C'était un vrai journaliste venant de France 2, tu vois, enfin d'Antenne 2
et
à l'époque.
Comment vous avez fait pour exister aussi longtemps ?
Eh ben, j'étais viré chaque année. J'étais mis en crypté, menacé d'être mis en crypté. Je me roulais par terre, il se roulait par terre. De temps en temps, j'étais renvoyé pendant 2 mois et puis ça revenait. Enfin, c'était vraiment les montagnes
russes.
Mais
qu'est-ce qui ne plaisait pas à Pierre Lescure ?
Le mélange des genres, c'est-à-dire le fait que dans la même émission, on dise des choses sérieuses, on fasse des vrais sujets, qu'on fasse de l'investigation et que parallèlement, on se permette de faire de la gaudriole, de la déconnade. Il trouvait que les deux n'allaient pas bien ensemble et qu'il fallait séparer le bon grain de l'ivraie et que ça n'était pas du journalisme. Ce à quoi je lui répondais, mais si, c'est la seule façon de faire aujourd'hui du journalisme qui intéresse les gens, sinon t'as plus personne.
D'ailleurs, les émissions qui marchent en ce moment en témoignent.
Voilà, et d'ailleurs, je pousse un cri d'alarme, je ne touche pas de droit d'auteur sur ces émissions qui ont repris le concept.
Pensez au quotidien.
Bah, par exemple, ça tombe sous le sens. Mm-hmm. C'est exactement la même chose.
Pour citer.
Donc, non, sauf qu'il y a moins d'investigations, vous l'avez sans doute noté.
C'est pareil, mais moins bien. 10 ans plus tard, dans la peau de Jacques Chirac, et à cette époque-là, vous écoutiez.
Jacques Chirac, maintenant président, ensemble.
Excellent.
Jacques Chirac.
Qu'est-ce que c'est ?
Bon, bon.
Mais Léla, vous êtes passé à côté de ça ?
Je crois bien.
Il y aura un générique de dessin animé sur Jacques Chirac, en fait. Non,
il y en aura sûrement, et ce serait mérité, j'ai envie de vous dire.
C'est la bande originale de Dans la peau de Jacques Chirac, qui est en fait la chanson pour sa campagne de 1981, qui est vachement bien, hein, d'ailleurs.
Il y avait une chanson.
Bah, il y avait une chanson.
Mais tous les candidats avaient une chanson.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mitterrand, c'était une begin. François Mitterrand.
C'est pas vrai.
Si. Et VGE, c'était un rock. Le VGE rock. Pour toi, pour moi. Genre un peu rock Amadou.
Mais on fait plus ça. On fait plus ça pour les gens.
Je regrette.
Moi aussi.
Et j'envisage d'enregistrer un album de tous les candidats.
Ouais.
Et quand même.
Patrick Sébastien.
Un livre d'œuvre.
César du meilleur documentaire.
Ouais, c'est merveilleux, ça m'a ouvert quelques portes. Surtout que je venais de me faire virer de Canal. Donc c'était très agréable de juste quand t'as été viré, tu reviens sur la scène en direct pour les Césars. Et donc tu sens qu'il va y avoir un problème parce que les mecs t'appellent avant. Donc je reçois un appel un peu empoulé de la direction d'alors. Il y avait le très sympathique Belle-Mère, etc. Et alors il m'a dit, mais imaginons que par hasard, comme ça, tout d'un coup, tu es le César. Comment réagirais-tu sur la scène en direct ? Et je dis, eh bien, nous verrons, ce sera selon mon humeur.
La surprise. Et comment est-ce qu'il a pu voir le jour, ce film ? Puisqu'il y avait les télés, finalement, vous ont lâché.
Tout le monde nous a lâchés. On a fait le film avec Michel Royer. Ensuite, on est allé voir 14 producteurs à Paris à qui on a montré le film. Et j'ai vu 14 producteurs sous la table de rire et me disant à la fin, à chaque fois, ça va pas être possible, il est président, c'est vraiment compliqué. Mais le film est très bon, bravo, quel talent. Et donc on était vraiment dans la merde et notre chance, c'est qu'en bout de course, au moment où on se disait, on le sortira jamais au cinéma, on le foutra à la télé si quelqu'un en veut un jour et tout. Même Canal d'ailleurs qui m'avait viré avait vu le film en disant merde, finalement t'avais du talent, on n'aurait pas dû te virer, etc. Bon, et on était comme des cons et on est tombé sur les Pingouins, ceux qui avaient fait Bonne Pioche, ceux qui avaient fait qui avaient eu un Oscar pour La Marche de l'Empereur et qui se sont dit ah, on a eu un Oscar, on va avoir un César avec ce film, et ils l'ont eu. Voilà.
Carl Zéro est avec nous jusqu'à 12h30 dans la bande originale Carl Zéro pour Si j'étais aux éditions du Rocher, mais pas que. Carl, la prochaine édition de votre Festival international du film culte. Alors, c'est quand ? C'est où ? De quoi ça parle ? Pourquoi ?
Eh bien, c'est du 22 au 25 juin 2017, c'est-à-dire très bientôt, dans la cité riante et balnéaire de Trouville-sur-Mer.
On peut trouver votre gâteau.
Voilà, on peut y trouver
le Carl Zéro.
Le Carl Zéro, mais on peut surtout trouver à la fois une rétrospective de Derrière les fagots, puisque cette année, c'est consacré au cinéma musical. Donc, ça va des comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood jusqu'au film de Jacques Demy, en passant par... On parlait tout à l'heure de la programmation avec Albert. Il y a même Fatal Bazooka, c'est te dire à quel point on est ouvert.
Large.
Tous les films où il y a de la musique. Et
c'est très drôle.
Oui, formidable. Moi, et les chansons, les musiques sont formidables. Les chorégraphies, pisser de rire.
Et donc, c'est le public qui vote actuellement sur le site, non, sur le Facebook d'ailleurs, du Festival du Film Culte. Et chacun peut voter une fois et nous tiendrons compte évidemment de ses avis. L'année dernière, c'était consacré au rire francophone et c'était, bah évidemment, c'était l'admirable Venantino Venantini, dernier tonton flingueur en exercice qui était venu recevoir la mouette de platine.
C'est ça, c'est que c'est culte jusqu'au bout, la mouette de platine.
La mouette de platine, bah, à Trouville, la mouette.
Avec Sanguano.
Normal.
Oui, il y a beaucoup de films en compétition.
Alors, dans la rétrospective, bah, il y en a 7 et dans la compétition, attention, car il y a aussi une compétition. J'attire votre attention là-dessus. Il y a donc 7 films nouveaux, non sortis, dont on dit, attention, ces films sont de futurs films cultes. Venez les voir.
Alors pour parler du film culte, justement, nous avons convié ce qui se faisait de mieux en matière de cinéma. Évidemment, Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette.
Bonjour Daniel.
Merci d'être venu jusqu'ici. C'est quoi un film culte ?
Ah là 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 là. Bah justement.
Merci Guillemette.
Quelle précision.
Ça n'a pas de définition précise, ou en tout cas, ça a une définition croisée. C'est-à-dire que.
Ça y est,
c'est
on sent
forcément...
la spécialiste, on sent la fille de Télérama.
Non.
C'est pas comme ça, c'est croisé.
Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément un bon film, déjà.
Non.
Donc laissez tomber Orson Welles, aucun film culte. Enfin les grands classiques, ceux dont on dit que ce sont les meilleurs films du monde.
Mais La Nuit du Chasseur, par exemple, on peut dire que c'est
un
film
culte. Alors, mais voilà,
Albert, voilà, directement.
Ça peut marcher La Nuit du Chasseur parce que c'est un film unique. C'est Charlton qui a réalisé, voilà. Qui était un acteur qui a réalisé un seul film.
Son seul film.
Et parce qu'à l'époque, le film a été totalement méprisé. Ça compte aussi. Souvent, le film culte, c'est un film dont on dit. Qu'il a été réhabilité, et souvent réhabilité par le public, qui
comme
à force
Fricks,
de dire, mais
Fricks,
bon sang,
par exemple, hein,
à force de dire bon sang, mais qu'est-ce qu'il est bien ce film, de dire à son voisin, à son cousin, à sa grand-mère, mais regarde ce film, La Chapelle, film culte, hein, donc c'est bien ce que c'est marqué dessus. Donc La Chapelle s'agrandit, et au fur et à mesure, le film prend enfin une certaine valeur, y compris aux yeux des critiques, qui se disent, merde quand même.
On est passé à côté.
On est passé à côté de ce truc, faudrait peut-être dire un peu comme tout le monde et avoir raison avec tout le monde.
D'accord, donc faut attendre un certain laps de temps avant que ça devienne
de
culte.
Temps en
est-ce
temps.
Qu'il y en a qui sont cultes dès leur sortie?
Il y en a qui... Alors, c'est le principe de La Petite Chapelle. Par exemple, Le Père Noël est une ordure. C'est culte au moment de sa sortie pour, disons, je sais pas moi, 10 000 personnes. Bon, maintenant, c'est culte pour tous les Français. Mais au départ, oui, un film peut être culte pratiquement immédiatement. Les films de Kerverne et de Lépine étaient cultes à peine, enfin, même pas tournés d'ailleurs, dans leur cerveau, ils étaient déjà cultes.
Il y a un parti pris au départ, on se dit que c'est de Lépine et Kerverne, on dit « Ah, ça va être culte
bah, ». Le film culte quand même.
Mais ils décident aussi d'eux-mêmes de faire un film culte,
c'est
l'évidence.
Et souvent, ça peut être un accident, mais souvent le film culte, en fait, c'est parce qu'au départ, le réalisateur... On a un peu, enfin pas rien à foutre, mais décide de faire un film qui lui ressemble tellement totalement, sans justement prendre en compte le public ou un éventuel succès l'avis critique. Il fait un truc tellement insolite, tellement personnel, que ça, soudainement, ça va croiser, en fait, bah, un petit nombre d'adeptes.
Et quelquefois des gens un peu déviants.
Pourquoi pas bah,
Vous avez vu Le
quand
Tronc
même... J'ai vu Le Tronc.
Film culte ou pas?
Ah mais d'emblée.
Cultissime.
D'emblée, avec effectivement...
Eh oui, Carl, eh oui.
Mais d'emblée, avec évidemment... Est-ce que ça comprend? C'est-à-dire que ça ne concerne pas tout le monde, ça n'a pas l'humour de tout le monde. Mais justement, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit que les films cultes, ça montre aussi l'évolution d'une... de la société, du regard sur l'humour, c'est-à-dire des gars qui pouvaient choquer énormément à l'époque, même par exemple dans Le Tronc, ou dans certains films.
Bernie,
aujourd'hui, ou dans les films de Dupontel, même les premiers films d'Albert Dupontel, ça aussi, c'était quand même pour une petite niche, pour des gens qui avaient quand même un certain humour noir. Maintenant, à la télé, à 20h50, tout le monde fait ce genre de vanne. Donc ça évolue aussi. Donc le film culte, de part aussi l'évolution de la société, forcément son public s'agrandit.
Et ça, c'est valable aussi pour les comédies musicales, pour les films musicaux.
Et alors les comédies musicales, parce que le film culte, c'est souvent du film de genre.
C'est du nanar aussi, est-ce que...
Alors, et dans la comédie musicale, ça marche particulièrement bien. Parce qu'évidemment, Chantons sous la pluie, c'est un film culte, mais c'est aussi un chef-d'œuvre. Donc, en revanche, le vrai film culte, par exemple, c'est Dirty Dancing. Alors là, on est dans le film culte absolu.
La folie sur le vote actuellement, il est numéro 2.
Et voilà.
Dirty Dancing.
Oui.
Moi, je m'y attendais pas du tout. Hein.
Ah,
je fais partie d'une liste de 53.
Qu'est-ce qui est premier?
Deuxième.
Parce qu'il faut.
Qui premier?
Bah, j'imagine sans chanter sous la pluie.
Les demoiselles de Rochefort.
Ah, ouais.
Bon, on va regarder là justement autour de la table. Nous, on vous a demandé, Guillemette, quel était votre film musical culte.
It's wonderful.
It's wonderful.
It's marvelous.
Léla n'est plus malade. Elle se réveille comme un petit oiseau. You should care. Alors, on écoute quoi?
On écoute Funny Face, ouais, Drôle de Frimousse. On écoute Fred Astaire chanter avec Audrey Hepburn, hein, comme ça tout va bien, on est un peu... Alors ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est que c'est aussi une comédie musicale de Stanley Donen, qui avait donc fait Chantons sous la pluie avec Gene Kelly. Alors Chantons sous la pluie, maintenant on peut plus rien dire, on peut plus faire une seule critique, c'est d'ailleurs enfin avéré, on peut, c'est un chef-d'œuvre. Funny Face, il y a un petit truc qui est sympa dedans, c'est que c'est une merveille de ballet, une merveille de beauté. Mais alors c'est filmé à Paris, Stanley Donen de toute façon a toujours adoré Paris, c'est filmé à Paris, et dans le film, il y a une évocation... du surréalisme, de la psychanalyse, avec mais vraiment un pastiche de ce que pouvaient être les intellos parisiens dans les années 50. Et ça, c'est too much, mais c'est absolument délicieux, espèce de petit film à l'intérieur du film. C'est un film en fait too much. Il est trop beau, il est trop rose, il est trop drôle, il est trop parisien, il est trop Fred Astaire qui a 80 ans, alors pratiquement, alors que Audrey Hepburn en a 25. Il est trop tout.
Il est trop culte.
Donc il est culte. Il est trop culte.
Et Guillermo, justement, vous partagez l'avis un petit peu général du film cultissime, parce qu'il est bien, parce qu'il est beau, c'est ça?
Non.
Pas du tout. Non, mais votre film.
Oui, mon film, c'est. Mais moi, c'est Singing in the Rain, en fait. Pourquoi? Parce que c'est le seul que je pense, la seule comédie musicale que j'ai terminée, en fait. Je suis pas du tout comédie. Mais vraiment, honnêtement, et je le dis.
C'est l'honnêteté.
J'ai tout le monde.
Pourquoi
tu l'as mon genre?
C'est le seul que j'ai vu
pour moi, quoi. C'est pas mon truc, quoi. Par contre, ça se shoot, c'est tellement beau. Et tellement.
Comédie musicale, ça vous touche pas?
Ah, mais alors, mais. Je peux pas être plus lointain, je pense, en termes de sensibilité que ça, quoi. Il y a les films sur les animaux de la ferme ou des trucs comme ça. Il y a deux genres comme ça qui me touchent moins, quoi.
Je crois qu'il y a eu un petit souci d'appréciation, en fait. Moi, on m'a dit la comédie musicale et non pas le film musical.
C'est de ma faute. La comédie musicale, alors?
Je vais être à côté de la plaque. Non, mais moi, je parlais de Starmania, voilà, mais je suis pas très comédie musicale, je suis pas très film musical, je rejoins un peu Guillermo sur ce point-là.
Ah, d'accord.
Mais c'est dommage, parce que pourtant...
C'est pour vous, Daniel.
Oh, c'est gentil.
Claude Dubois. Non, mais ça va être à côté de la plaque, donc rien à voir. Très mauvais... Faut qu'on s'envoie plus de SMS, Daniel, sur les tracts.
J'espère qu'il y en a compris autour de la table. Leïla.
Je crois bien avoir saisi la consigne.
Ah, c'est moi qui
pardon,
je
fais comme ça. Moi, j'ai choisi Podane de Jacques Demy, Michel Legrand, la musique. Et là, c'est la fée.
On n'épouse pas ses parents.
Delphine Serré.
Qu'est-ce qu'elle est belle. Pour lui, vos sentiments. Et ça, je peux le regarder 15 fois
souvent,
par an.
Vous en parlez souvent.
Je peux regarder 15 fois par an depuis que je suis petite. La lecture évolue en plus, parce que ce conte de Perrault, on peut y voir pas mal de choses quand on est enfant, d'autres choses quand on grandit. Et moi, je suis encore fascinée par les effets spéciaux. La fée montée à l'envers qui sort du toit avec ses belles robes. Il y a quelque chose de fascinant. Jean Marais, moi, m'a toujours fascinée. Sa voix, même vieillissant. Catherine Deneuve, c'est un des films où je l'aime vraiment. Il y a beaucoup de films où je l'aime pas. Et là, je la trouve... assez incroyable, et c'est un...
Mais qu'allons-nous faire de tout ça?
Vous voulez intervenir, Guillaume, justement, à propos de Podane?
Oui, parce qu'en fait, ce qui aussi en fait un film culte, c'est...
C'est kitsch,
à un certain moment du film, Catherine Deneuve, Podane, fait donc un gâteau, où elle doit mettre
Bien sûr.
Elle doit mettre une bague à l'intérieur pour se faire repérer par le prince. D'amour. Parce qu'elle essaye quand même un peu de pécho le prince, et donc, elle la chante, cette recette.
C'est formidable. Ouais.
Elle la chante, cette recette. Ouais. Et ce qui en fait... un film culte, entre autres, plein d'autres qualités, c'est que on peut compter le nombre de gens qui ont enregistré cette chanson et qui après, en suivant la chanson, ont tenté de faire la recette. Alors je l'ai fait.
Alors
essayez pas, ça donne du plâtre en fait. Ça marche pas du tout.
C'est la recette du Smecta.
Il n'y a pas les proportions.
Ça marche pas du tout. C'est même pas qu'une question de proportion. Il doit manquer vaguement quelques œufs ou un peu de beurre, mais ça ne marche pas du tout. Mais je connais plein de gens qui ont fait la recette en suivant la chanson. Si ça, c'est pas culte.
Ça veut dire que
c'est pas mal ça.
Albert, c'est quoi votre film culte?
Moi, je suis accablé parce que j'ai entendu de la part de Tom et Guillermo.
J'ai retrouvé le SMS, Albert.
J'ai giflé.
Daniel voudrait faire un petit tour de table avec votre comédie musicale culte. Si ça, c'est pas imprécis, désolé.
Non, vous avez choisi un titre pourri, c'est de ma faute. Oui, Albert, vous écoutez.
Moi, il y en aurait plein.
Il en faut une.
Mary Poppins, My Fair Lady, mais La Mélodie du Bonheur, par exemple, c'est une merveille. Julie Andrews est une merveille.
Je trouve qu'il y a quelque chose qui va vous beaucoup mieux, quand même, je trouve.
Ah, ça, c'est beau.
Je trouve que ça vous va bien, Albert.
Ouais, ça pourrait m'aller, mais non, je préfère la mélodie du bonheur, par exemple.
La mélodie du bonheur, on écoute un morceau. Ouais.
Très ganache, ça.
Je vois bien un petit rock comme
ça. The Lonely Gothard, c'est...
En train d'aller chercher des Edelweiss.
Ça, c'est un des airs merveilleux de la mélodie du bonheur. L'histoire est belle, la mise en scène est formidable, c'est...
Et Richard Lornac, Richard mon ami, qu'est-ce que vous avez choisi vous comme comédie musicale?
Je vais vous jouer. I feel pretty.
West Side Story,
bien sûr.
West Side Story. J'ai cru que c'était bienvenu chez les ch'tis au départ, mais en fait pas du tout. Et moi j'ai choisi un truc un petit peu déviant. Rocky Horror Picture Show, la chanson de Suzanne Sarandon.
Ça, c'est mais on peut considérer que formidable. Grease, c'est comédie musicale ou...
Oui, évidemment. Oui,
bien sûr.
Alors là, dans le genre culte, oui, même les vrais déviants préfèrent le Grease 2 avec Michelle Pfeiffer. Parce qu'il y a une scène où elle chante en montant sur un escabeau. Je vous dis que c'est...
C'est
non,
pas,
non,
c'est pour un truc
mais je plaisante
vous, hein.
Même pas.
Je vous gâche pas que j'ai préféré le 1. Alors,
allez, on va rester dans le... glamour dans le culte à Guillermo Guizot. On voit bien, mon petit Guillermo, que voilà, si on reste fan des œuvres cultes, tout le monde a sa petite Madeleine et c'est bien que Carl Zero mette à l'honneur ce patrimoine, non ?
Ça y est, c'est officiel. L'élève dépasse le maître. Ah. Bravo, monsieur Rhin. Vous avez réussi à faire passer Nagui pour un intellectuel. Ça prend la réputation qu'il avait mis 30 piges de paf à se forger. Qu'est-ce qui vous a pris d'essayer de coller les mots les uns les autres comme ça pour vous risquer à faire des phrases ? Je salue la tentative, elle est bien mignonne, mais je vous rappelle que c'est l'auditeur qui passe à la caisse et qui paye pas pour récolter... pour écouter quelqu'un qui se lance péniblement dans la langue française. Alors mon conseil, lisez d'abord, monsieur Rhin, ne fût-ce qu'un livre ou deux, à commencer par un Becherel. Et pour autant, comme je le signalais ce matin à Laurence Bloch, notre directrice qui me disait devant la machine à caféine « Oh Morin, comme chroniqueur, c'est déjà pas un cheval de course, mais comme présentateur, ça vaut pas un pichet de cidre. Vivement que Macron prenne les rênes de la maison qu'on puisse commencer à licencier les gens par WhatsApp. Mais là, sachez-le, monsieur Rhin, au péril de ma carrière, je suis intervenu. J'ai dit non, madame Laurence Bloch, certes Daniel Mo est sur le déclin depuis la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Oui, ses interventions publiques provoquent chez nos auditeurs céphalées, crises d'angoisse et début de scorbut. Ok, il a eu ses petits problèmes avec la justice, mais aussi quelle idée de mettre une école sur le chemin de Radio France, par parenthèse. Pour autant, madame Laurence Bloch, vous n'êtes pas à l'abri d'une séquence culte avec Daniel Morin, puisque par culte, il faut comprendre célébration, un brin snob du vieux truc d'Ecati que personne n'a daigné célébrer à sa juste valeur sur le moment. Même, je lui ai dit, si ça se trouve, un jour, les générations futures se retourneront sur ces chroniques laborieuses et cette façon si singulière de créer le malaise avec son humour de cantine militaire, et elles se diront, Daniel Morin, c'était pas si mal en fait. Enfin, c'était même vachement bien. Hein, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'effet d'haricole. Laissez-lui le temps de devenir cool. Alors voilà, monsieur Rhin. En attendant d'être récupéré dans 30 piges par des petits branleurs en Segway et avant de finir licencié par WhatsApp après le 7 mai, une fois de plus, vous avez dit
n'importe quoi.
Merci, merci Guillaume.
Tu dis merci.
Oui, je dis merci parce que je suis bien élevé à côté. Je mets
merci Daniel Morin,
ton petit belge tout à l'heure. Carl Zero, si j'étais aux éditions du Rocher, est notre invité. Carl Zero, qui est également le cofondateur du Festival international du film culte. Cette fois, j'ai bien noté, du 22 au 25 juin prochain à Trouville. Le thème de cette année, le cinéma musical, musique. Justement, dommage que Nagui soit pas là parce que il le fait tellement bien. Who will stop the rain?
Ça fait un bien fou.
Creedence Clearwater Revival, Will Stop the Rain. Restez avec nous sur France Inter. On est là jusqu'à 12h30 dans la bande originale avec Carl Zero. Merci Guillemette, à très vite.
Mais merci Daniel.
Bravo Guillemette.
C'est le retour de la bande originale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Inter.
Formidable musique.
Nous sommes toujours avec Leïla Kadour Boudadi,
Jacques
Villa,
bonjour.
Albert Algou, Guillaume Mogouiz et Richard Lornac au clavier.
Bonjour.
Oui.
Nagui est toujours, toujours, toujours à vacances. Et notre invité est Carl Zéro. Moi, je suis toujours Daniel Morin.
Eh oui, salut Daniel.
Merci Leïla.
Bonjour, bonjour.
Carl Zéro, si j'étais aux éditions du Rocher avec, mais tellement de portraits, allez, j'en cite quelques-uns, Marine Le Pen, Macron, Chirac, Bouba, Morandini, le héros, et bien sûr, plein d'autres que vous avez
Balkany.
Déjà déclinés, Balkany, incontournable, à 11h50, à 7h55, pardon, sur France Info. Est-ce qu'il y a des peaux qui vous ont résisté, Carl?
Aucune peau ne me résiste.
Est-ce qu'il y en a qui ont été plus difficiles à...
À gratter, oui.
Ouais.
Ah oui, oui.
Comme
oui,
qui
oui. Oh, il y a des fois, tu galères, mais grave, quoi. Tu dis, bon, je vais mettre une heure. Après, tu dis, bon, bah, ça sera une heure et demie. Après, c'est deux heures. Et à la fin, c'est quatre heures. Parce qu'il y a des jours, t'es... Je sais pas ce qui se passe, tu vois, c'est très dur. Alors, est-ce que c'est lié aux personnalités ou est-ce que c'est lié à la tienne? Parce que parfois, tu es quand même flappy, t'as du mal, tu vois. Je réfléchis. Non, il y en a. Tu disais Morandini, c'est 10 minutes, c'est
ouais.
Tout de suite, c'est voilà. Mais ça, tu dois connaître ça par cœur, Daniel. Non, j'ai pas souvenir. Je crois pas que c'est lié au genre, en réalité. C'est lié
à l'humeur du jour.
Ouais, ouais. C'est toi, en fait. C'est toi qui t'es plus ou moins bien. Je pense que il y a des gens. Ce qu'il faut chercher à faire, au fond, c'est à surprendre avec des éléments inattendus. Et donc, en fait, c'est beaucoup compulser Internet et regarder tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit, et sortir des trucs qui sont oubliés, les remettre au goût du jour, les en reparler, etc. En fait, c'est mi-informatif, mi-déconnant, quoi. C'est vraiment un mélange. Et puis, il y a aussi les fois où t'as pas envie d'être drôle du tout, et donc, tu sais que le lendemain, je suis avec Fabienne Sintès, Jean-Michel Apatride, qu'on a cité, et tu sais qu'ils vont te regarder genre comme ça, en disant, mais où il va?
Qu'est-ce qu'il nous fait?
Oui, c'est les journalistes. Ouais. Journalistes purs durs, donc ils vont être...
Oui, parce que tout d'un coup, je suis exactement dans le même registre qu'eux, et donc oui. Ils se demandent pourquoi. Tu vois, c'est ça qui est étrange. Mais je me dis, bon, si moi je le fais pas, qui le fera? Ils m'ont pas engagé en me disant ah, et surtout sois drôle hein. Ils m'ont dit bah on te prend pour ce que tu es, donc je suis pas toujours drôle, donc des coups voilà, donc celles-là sont plus difficiles à écrire.
Est-ce qu'il y en a que vous n'avez jamais réussi à faire, vous êtes dit allez celui-là je me le fais aujourd'hui et finalement rien ne venait et vous avez décidé de laisser tomber?
Ouais, parce que parfois c'est trop dur. Je pense aux faits divers. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de docs de faits divers, et donc c'est un univers que je connais bien. Et quand je veux, je l'ai fait une fois. Albert citait tout à l'heure Dupont-Digonnet, c'est parce qu'on disait qu'il avait réapparu. Et comme moi, je suis persuadé qu'il est mort. Du coup, j'avais pas. Puis en plus, je connais pas très bien l'affaire. Mais quand je connais bien les affaires et que je voudrais dire quelque chose, là, j'y arrive pas. Parce que je peux pas tellement rigoler avec ça, et du coup, ça serait plombant.
Faut dire que Carl a été un des premiers, le premier à initier les émissions sur les faits divers.
On va en parler tout à l'heure
sur toutes
dans
les chaînes. Le
culture.
Ah, pardon. Je ne savais pas, je me tairais, donc je me la ferme.
Mais non, pas.
Il avait juste un projet, c'était l'autorail de l'horreur.
Oui.
Ça, c'était un
la projet. La Micheline de l'horreur. Qui s'arrêterait dans toutes les villes où il y a eu un fait divers.
Mais il y a 20, 30 ans.
Ouais.
Quel visionnaire. Et là, on a les élections présidentielles qui arrivent, là, dans 2-3
semaines. C'est lié, un fait divers.
Vous seriez président. Votre première mesure, ce serait quoi, Carl Zéro?
De réhabiliter l'honneur de François Fillon.
Vaste programme.
Vous êtes sûr que 5 ans, ça va suffire?
Car je suis un vrai gaulliste, monsieur Morin, contrairement à vous.
Ah bah moi, je suis un salaud, tout le monde le sait. Carl Zéro est avec nous jusqu'à 12h30. Si j'étais aux éditions du Rocher et le festival international, s'il vous plaît, du film culte, c'est à Trouville du 22 au 25 juin, le thème de cette année, le cinéma musical. Il est l'heure de l'humeur, drôle d'humeur, je l'espère, de Guillermo Gouiz. Vas-y Guillermo, sois drôle.
Bonjour les amis.
Non, il n'y en a pas.
Alors les plus érudits d'entre vous le savent. Et je regrette déjà le début de cette phrase, je vais reformuler. Bonjour les amis, à la limite Leïla. Bref, peut-être que certains parmi vous le savent parce qu'ils ont eu la télévision sur des périodes semi-longues. Mais ce vendredi 7 avril, ça fait aussi 1987 ans, jour pour jour, que nous quittait Jésus.
de son vrai nom, Jésus Lionel Denis Ludovic Christ de Nazareth, de Jésus, le meilleur d'entre nous, vraiment, celui qui a sacrifié sa santé pour que Daniel Morin puisse vivre dans le péché avec son Golden Retriever. Jésus, donc, dont Albert, je le rappelle, a été secrétaire particulier pendant plusieurs trimestres.
C'est vrai.
Ce qui lui a d'ailleurs valu cette dédicace dans l'évangile de Matthieu, je cite, et là Jésus dit au fidèle, Albert Algou, c'était mon ticket Olgado. Après sa démission, j'en ai chié les clinches de porte, plus rien n'était pareil. Donc la suite, on la connaît, Jésus donc parti trop tôt comme Ayrton Senna, et certes avec un succès d'estime pas dégueulasse en basse Judée, mais probablement, et c'est bien malheureux, sans avoir conscience de l'impact qu'il aurait sur le monde. Je veux dire, Jésus, tu l'aurais dit, tu vois, aimez-vous les uns les autres, tout ça va devenir un succès. Et tu aurais répondu, ah ouais, c'est marrant, tiens, moi j'ai dit ça comme ça, tu vois, sans plus, hein, dans un souper. Et quoi, il est venu le temps des cathédrales, ça a marché. Et moins. On t'a piqué dans une comédie musicale chelou avec un des anciens jurés de The Voice et tout, mais moins quoi. Et donc, faut s'imaginer le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui sans l'influence majeure de Jésus et de la religion qu'on lui a dédiée. À cette heure-ci, par exemple, dans la chapelle Sixtine, il y aurait un mur de LED. Avec des pubs pour Décathlon. C'est vrai, sans Jésus, il y a 40 générations de peintres anciens qui auraient dû se taper des natures mortes toute leur carrière, en fait. Vraiment, on te dirait Michel-Ange, fait, ouais, il a fait des belles pommes, c'est pas Uderzo non plus, quoi. Sans Jésus, on serait tous juifs ou musulmans. Et oui, et je peux vous dire que l'ensemble des prépuces ici présents ferait moins les pierres à bras. Et vrai, pour autant, mon excellent papa, dont j'ai déjà évoqué ici l'absence actuelle et probablement définitive de souffle vital, a passé la fin de son existence à démontrer que Jésus n'était pas un personnage historique, au même titre que Denver, le dernier dinosaure, Narnia ou Milli Vanilli. Son argument, c'était que les preuves étaient ténues et sujettes à caution, ce qui fait en partie sens quand tu sais qu'à l'époque, YouTube était encore assez rudiment. Enfin, tu mettais 12 ans et demi à charger une vidéo, enfin, tu pouvais pas mettre des likes et tout. Enfin, c'était un truc vraiment de niche, quoi. Et limite, tant mieux, parce qu'on pourrait jamais savoir comment se serait développé le christianisme si on avait genre, une vidéo d'un miracle raté, par exemple, de Jésus. Tu vois, je dis, lève-toi et marche. Monsieur, lève-toi et marche.
Ouais.
Allez, je suis pas dedans aujourd'hui. Tu vois, j'ai pas mon café, tu vois. Tu serais venu hier voir le truc, hein. C'est vrai, il faut imaginer Jésus s'il avait été traqué par des téléphones portables dans chacune de ses allocutions, quoi. On aurait peut-être une toute autre image de lui, en fait. Genre Jésus qui parle mal à son assistant. Tu vois, je t'ai entendu dire en quelle langue j'avais dit Coca Light. Je t'ai demandé qu'est-ce que t'as pas compris à Light, tu vois. Et les gens, ils seraient indignés sur les réseaux sociaux. Il y aurait des commentaires genre, oui, aime ton prochain mon cul, double discours. J'ai toujours dit que je le sentais pas ce type. La vidéo de son truc avec les pains, c'est un fake. Et tout. T'aurais tous les sites à la con qui reprendraient ce que d'autres sites à la con on titré, tu vois, clash entre Jésus et son assistant, Jésus le dérapage, les images qui dérangent, c'est vrai, et Jésus il serait obligé de poster un message sur Facebook, tu vois, genre suite à la vidéo qui a circulé de moi, je tiens à dire qu'il faut remettre les choses dans le contexte, ça faisait 10 fois que j'avais dit light, à un moment, voilà, tu pètes les plombs, mais ça n'excuse en rien mes paroles si j'enfonçais quelqu'un, etc. Donc à 2000 ans près, Jésus il faisait 800 000 clics sur le site de Morandini, mais on l'aurait oublié dans 2 mois, quoi, c'est vrai, donc heureusement qu'il était d'un autre temps, je veux dire, et vendredi prochain, je vous fais un billet sur les 15 ans de la mort de Denver, le dernier dinosaure. Allez, bonne émission, les amis.
Guillaume Bogoui.
Bande originale sur France Inter.
Carl, vous pensez qu'au bout de combien de temps on parlera du festival du film culte comme un festival culte?
Il est déjà culte, Daniel.
Oui. D'abord, il est déjà culte. Sa première édition a été un tel succès qu'on a eu du mal à s'en remettre.
Physiquement?
Ah oui.
Ça mange au voile ou au vapeur?
Les deux. Au central aussi, et au catcha, bien sûr. En fait, si tu veux, je crois que l'idée même du festival de dire, parce que pour des raisons que j'ignore, personne n'avait pensé à dire que le cinéma culte était un cinéma bien identifié et bien à part. Il y a des festivals de tout, de policiers, de tout ce que tu veux, de rire, de machin, mais culte, non. Or, le culte existe réellement. C'est même ce qui fédère les gens. Elle parlait, Madame Guillemette, tout à l'heure de chapelles, mais ces chapelles sont très importantes, elles ne se retrouvent pas sur les autres films. Donc, je pense que c'est l'idée elle-même fait que ce festival est appelé à être pérenne et petit à petit à remplacer le festival de la ville concurrente, dont le nom commence par D et se termine par Ville, et qui est un festival de cinéma américain depuis plus de 40 ans, alors que nous n'avons que 2 ans cette année. Non, je pense que le festival va durer très très longtemps.
Oui, ce festival de Deauville qui ronfle et qui radote, passons à autre chose, c'est bien ça.
Eh oui, c'est un vieux festival.
Puisque là, Guillermo parlait justement de Jean-Marc Morandini, on parlait de 40 ans, vous dites, il a fallu 40 ans à Jean-Marc Morandini pour faire la 4e de couverture de Libé. Est-ce qu'il est au courant de cette petite saillie un peu caustique?
Je pense, nos relations se sont arrêtées quand j'ai découvert sa double vie scandaleuse. Non, d'ailleurs, j'avais aucune relation avec lui, en fait, j'avais dit qu'il était ringard, alors j'étais plus invité chez lui depuis au moins 15 ans, moi.
Bien, restons dans la culture, c'est le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour, je sors de la promo, c'est notre bouillon de culture, un petit bol d'air, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, et on commence...
Très bien.
...par un son pour vous, Carl Zéro. Ouais.
Eh ben, vous allez ranger votre fourmi après, là. Vous savez que c'est une maison où il y a plusieurs entrées et sorties, et qu'à partir du moment où je monte les escaliers, vous restez en bas, et je peux sortir par la fenêtre devant, derrière, enfin, vous faire des trucs à l'envers, non?
T'as vu ou quoi?
C'est un extrait de 60 jours, 60 nuits, une émission que vous avez produite pour Canal, où vous suiviez pendant 60 jours, et donc 60 nuits, là, Joe Starr et Francis Lalanne.
Ah, quel souvenir merveilleux.
Vous avez pris deux personnalités qui sont très...
différentes,
voilà,
mais pas moins bien.
C'était en 2003, et c'était d'une certaine façon une des premières émissions de télé-réalité avec des célébrités.
C'était une émission de télé-réalité vraiment, c'est-à-dire on filmait la réalité, on filmait pas des conneries inventées par des scénaristes, etc., comme ils font beaucoup maintenant. Et c'était des vraies stars dès le départ, donc on ne transformait pas des abrutis complets en vedettes d'un instant.
Alors pour un Francis Lalanne, j'imagine que c'est plus simple de le convaincre, mais un Joe Starr.
Joe Starr, il avait fallu payer très cher. Très très cher, un chèque.
Il avait monnayé.
Oui, mais tu le connaissais depuis longtemps, Joe Starr, puisqu'il a tourné dans des sketchs au tout début.
Oui.
C'est-à-dire alors qu'il n'était pas connu du tout.
Non, il était juste Didier Morville et il tenait le mur en bas de sa cité. Et il n'avait pas encore fait de rap. Il n'avait pas fait NTM.
Et toi, tu l'as fait tourner.
Je faisais tourner comme figurant. Donc
Mais il s'en est pas rappelé, a priori.
Il en a parlé avec émotion, même.
Il s'en souvient parfaitement. Et à l'époque, donc, il était. Il est toujours au top de sa carrière. On lui avait proposé. Et l'idée d'être confronté à Francis Lalanne l'amusait beaucoup. L'ennui, c'est qu'à l'époque, Joey faisait uniquement des activités absolument infilmables. Oui. Je veux dire que la morale réprouve. Et donc, on l'avait en gros une heure par jour. Alors que Francis Lalanne, on l'avait 23 heures par jour. Parce que Francis ne dormait pas. Il créait toujours une nouvelle activité absolument géniale.
Il est chien-chêne ou enfin bon, bref.
Ah bah oui, ça c'était c'est venu de là, ce côté j'embrasse les arbres. Donc tous les jours on avait j'embrasse les arbres, mais aussi il pleurait devant sa vitrine de figurines Starlux, des petits soldats. Enfin, il se passait des trucs géniaux.
Mais il est vraiment comme ça ou
il est vraiment comme ça. Il est
c'est pour faire parler de lui.
Non, il est absolument extraordinaire, d'une culture fascinante. Il écrit des rondeaux du Moyen Âge alors que le Moyen Âge est loin maintenant. Et il continue. Non, mais il est vraiment fascinant. Puis du coup, il lui arrive des trucs bizarres. Il s'habille. Un jour, il arrive, il était mis un rappeur, il me dit j'ai perdu mon mojo. Je lui dis qu'est-ce que c'est que ces conneries, c'est tout ce que t'as trouvé, vas-y, film, je vais te raconter. Alors il me raconte qu'il se sentait pas bien dans sa peau, qu'il avait perdu vraiment le
souffle vital,
plus cher, voilà, qu'il n'arriverait plus à être Francis Lalanne, tout ça. Et puis un quart d'heure après, il était redevenu Francis Lalanne, je vais remonter sa grappe. Alors que Joey, c'était plus compliqué, il fallait créer des événements pour Joey. Donc on l'avait envoyé en Jamaïque pour qu'il aille fumer de la ganja et voir un truc de
ah bah c'est bien, vous l'encouragez pas
en voiture aussi avec un camion et tout.
De ragaton. Ensuite.
Donc c'était un peu scénarisé alors.
Non. Quand on.
À l'envoyer en Jamaïque pour fumer.
Mais oui, parce que lui, on avait vraiment du mal avec lui. C'est-à-dire, sinon, il disait oh, ta gueule, et puis il refermait sa fenêtre et tout. mais c'était ça. Donc on envoyait aussi l'homme orchestre Rémi Brica pour jouer en bas de chez lui, pour le réveiller vers 15h. Parce qu'on disait quand même 15h. L'équipe attend depuis 6h du matin. Il va se passer un truc. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Puis on allait dîner aussi. Alors je partais avec Daisy, et puis lui venait avec. À l'époque, il était avec Béatrice Dalle. Donc on dînait à 4 et ça faisait un épisode, voire deux, parce que là on pouvait parler, il se livrait un petit peu, etc. Mais c'est vrai qu'il était plus dur à manier. L'autre, je pense qu'il continue à croire qu'il tourne dans 60 jours, 60 jours, alors que c'est fini depuis maintenant 14 ans.
Et vous feriez quoi en 2017, vous qui avez toujours voulu innover en télé?
Dans le genre télé-réalité ou dans le genre autre?
Dans le genre autre, ce qui vous semble être une vision nécessaire de la télé pour la réinventer un peu?
Pas mal, j'aime bien ta question.
Ah ouais.
J'aime ton bonnet aussi.
Réponds à la question.
J'aime tes dents. Et...
Ok. Sinon,
ça vient de nous. Pas flippant. Longtemps, on va arriver au malaise.
C'est pas
bon.
Mais alors, c'est en fait, je suis pas du tout à répondre à ta question. Qu'est-ce que tu veux que j'invente en télé?
S'il avait un concept révolutionnaire en télé, je pense qu'il essaierait d'abord de le vendre à un producteur.
J'en parlerai pas sur France Inter, si tu veux. Je serais déjà avec Monsieur Pélisson de TF1.
C'est pas toi un concept. concept bien précis, mais comme tout à l'heure, d'expliquer que c'était un mélange d'infotainment, enfin, de journalisme divertissement. Ouais. Qu'est-ce qui, en termes de recettes, vous semble être quelque chose d'attendu pour que le public soit dans cette envie de regarder la télévision et de communier avec un programme?
Très bien. Mais alors, c'est pas un concept. On a passé l'ère des concepts. Mm-hmm. C'est juste que les gens soient eux-mêmes. N'importe qui, étant lui-même et passant à la télé, il est bon. Et dès qu'il essaye d'être quelqu'un d'autre, il est mauvais. Le problème, c'est qu'à la télé, la plupart des mecs, ils essaient de faire ce qu'ils sont pas.
Mais c'est la même chose dans la campagne électorale.
Bien sûr, ça vaut pour tout en réalité. On peut pas tricher avec les gens, faut pas prendre les gens pour des cons. Donc que ce soit en télé, en radio, en politique, en ce que tu veux, dès que tu montes ta gueule, faut être toi-même. Si t'es pas toi-même, va bien te faire foutre.
On reste sur la télé avec un autre son.
Ça, c'est fait à toutes et à tous pour de nouveau fait Carl Zéro sur 13e rue. C'est à une affaire particulièrement surprenante que nous allons nous intéresser aujourd'hui. L'histoire d'un pasteur hongrois, András Pándi. Bien loin des préceptes chrétiens censés l'animer, comme la charité, la bonté, l'amour, ce pasteur a une conduite qu'on peut qualifier de démoniaque. Ça c'est bon, ça, c'est on dirait Albert.
Alors, ça me fait penser au camarade du père Albert Pouch, dont Daniel Morin l'autre jour nous parlait.
Alors c'est un extrait des faits Carl Zéro, une émission que vous avez présentée sur 13e rue, autour de grands faits divers. Vous avez aussi écrit un livre sur les disparus et autres affaires non élucidées, réalisé un doc sur Luca Magnotta, le dépeceur de Montréal. Ça vous vient d'où cette fascination pour les faits divers, Carl Zéro?
Et pour les troncs?
Ben, c'est de très loin, et mon camarade Albert, qui me connaît depuis au moins 30 ans, j'ai toujours été fasciné par les faits divers. D'ailleurs, il citait tout à l'heure le film Freaks. On a ça en commun. On a toujours eu un goût pour les choses un peu noires, un peu mystérieuses. Alors, par la suite, quand je me suis lancé dans cette affaire de Fake Carl Zéro, c'est parce que j'étais content d'interviewer des vrais gens à qui il était arrivé des vrais trucs. Contrairement aux politiques que j'avais essorés pendant 10 ans et à qui il n'arrive jamais rien à part des phrases qu'ils ont prévues et qui te balancent, même si on se tutoie et qu'on va essayer de voir ce qu'il y a de plus humain chez eux, malgré tout, ils arrivent à vendre leur smoule. Alors, quelqu'un à qui il arrive un drame dans la vie n'est pas quelqu'un qui raconte des conneries. Voilà. Et donc, c'est ça qui est très intéressant dans le fait divers. Et c'est la seule forme, je dirais, ou école de journalisme où on est encore confronté à une vraie, vraie réalité comme ça. Ça, c'est fascinant. Mais c'est pas très marrant.
Il faut rappeler que le fait divers nous dit de la société, en fait, aussi.
Truffaut, par exemple, il se nourrissait de faits divers. Dans son bureau, il y avait des classeurs qui étaient remplis de faits divers, qu'il lisait régulièrement.
Il y a beaucoup de réalisateurs qui s'inspirent de faits divers pour se lancer dans...
C'est la base.
C'est une matière première.
C'est plus qu'une... C'est une matière humaine, en fait. Il y a de l'humanité dans le fait divers. Dans le reste, il n'y en a pas souvent, quand même. Vous l'avez certainement constaté, bien que vous êtes très jeune, mademoiselle.
Et je finis par un cadeau pour vous, Carl Zéro.
Un livre.
Un livre de Jacques Guillaume. Quel cirque aux éditions et 10 livres. Alors, ce qui m'a plu, c'est le récit. Alors, je vais vous en faire un petit extrait. Aidé par un bien curieux curé et une troupe ambulante de catcheurs, quatre enfants pourchassés par les féroces de l'ordre cherchent à fuir l'Hexagonie, pays vivant sous la botte à talonnettes de son président. Ce dernier veut devenir empereur. Pendant ce temps, une bande d'irréductibles aux surprenantes méthodes de guérilla urbaine s'évertue à le contrarier. Et ils ne sont pas seuls. Nicotine, son épouse exhibitionniste, Gracchus, un émule d'Arsène Lupin, le pape Agapé III, agité de la tiare, Olga Pitonis, la voyante qui lit l'avenir dans le sperme de kangourou. Voilà ces personnages principaux. Et comme le chant de Piquette, un clochard puant et tonitruant, ça branle dans le manche. Et je me suis dit que c'était pour vous.
C'est peut-être le scénario du Tron 2 que vous êtes en train de m'offrir. De ce que vous venez de me lire,
c'est le brouillon de culture de Leïla Kadour-Bouladi. Merci Leïla.
Merci Leïla.
France Inter. Invité Carl Zéro, si j'étais aux éditions du Rocher, les chroniques de Carl sur France Info de 7h55 et bien sûr le Festival International du Film Culte du 22 au 25 juin à Trouville. Le thème de cette année, le cinéma musical. On reste dans une ambiance de feu, Mathieu Bogart.
Des bas de laine, petit feu, une canadienne avec les yeux bleus, mes doigts se promènent dans ses cheveux. Voilà la scène et me voilà heureux, heureux. Si tu savais, en fait, jouer un peu moi c'est tout ce que je voulais. Une paire de bottes, une camionnette. Elle un peu saute, elle ma majorette. En petite culotte sur la banquette, même qu'elle se saute. Et voilà, c'est chouette, si tu savais jouer un peu, en fait. Moi c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est chouette, si tu savais. Je sais, je le répète, mais c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Vraiment. Des talons hauts dans le bureau, incognito dans le scénario, ou un tailleur dans l'ascenseur, 5 à 7 heures, que du bonheur. Qu'elle me menotte, qu'elle me soumette, qu'elle me ligote dans la cachette, sur les velours, sous les miroirs. Elle est juste pour la petite histoire. Oh là là là, oh oui, quand c'est comme ça, bah c'est beau la vie, tout le cinéma, tous les scénarios, je ne voulais que ça. Voilà, c'est dit, moi c'est tout ce que je voulais, ben voilà, je l'ai fait.
Mathieu Bogart, Bas de Laine, ambiance plu, de hein. Déglingo dans le studio. Mathieu y est pour beaucoup. Mathieu y est pour beaucoup.
C'est énorme.
Ah oui, oui, je suis un peu une saleté. Merci Carl d'avoir passé cette fin de matinée avec nous.
C'était génial. J'ai passé un moment merveilleux. Je vous remercie.
C'est formidable. Si j'étais aux éditions du Rocher, la deuxième édition du Festival international du film culte du 22 au 25 juin à Trouville, le cinéma musical est à l'honneur. Des excuses à présenter, s'il vous plaît, Tom, pour toutes les bêtises qui ont été dites.
Évidemment, déjà désolé à Carl Zéro qui s'est fait traiter de feignant par les Ilaki. Au bout d'aller, au bout de deux secondes d'émission.
Elle le paiera très cher. Ouais, sa carrière va s'interrompre dans la minute.
Faites-le le 20h de France 2, elle est beaucoup plus sympa. Désolé pour nos auditeurs cinéphiles qui ont été quelque peu violentés par la critique dithyrambique de Fatal Bazooka. Hein, alors oui, oui, ça pique au début, hein, mais c'est pas plus glauque qu'un film des frères Dardenne. Et puis pour terminer, désolé au ministère de la Santé et de la Sécurité routière. Non, il ne faut pas boire un litre de vin, manger un camembert entier, prendre sa voiture et rouler à 190 sur le périph' en se masturbant, hein, c'est quand même pas bien de se masturber.
C'était une autre époque.
Merci Tom, la semaine prochaine on rejoint Nagui en vacances. Dès lundi, vous aurez droit au meilleur de la bande originale, ce qu'on appelle la crème de la crème. On se retrouve lundi 17, le lundi de Pâques, avec la bande au complet, comme invité Laurent Godet, à suivre Philippe Bertrand, Carnet de campagne. Bon week-end, bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Bonne journée à l'écoute de France Inter.